y a des gens bien, il y a du café gratuit et il y a surtout de la bonne musique. Et faut pas oublier la fréquence.
88.3
Campus, la radio sur le 88.3 FM.
Et baisse le son.
Mais faudra nous donner 1000 francs et des nouveaux, hein.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et voilà, voilà, nous sommes eh bien, en direct sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous, bonjour Arnaud, bonjour Vincent.
Salut Julien.
Bonjour à l'équipe de Céline, Fabien, Michel, Claude, Xavier, il me semble encore, et Emmanuel. Voilà. 15 jours pour ma part sans avoir l'occasion d'allumer une seule fois une plateforme ou d'aller dans une chambre noire. Donc je vais pas parler de grand chose, je vais vous écouter. Après,
on se disait qu'en écoutant le générique, il n'a jamais aussi bien porté son nom, parce qu'effectivement, on se fait un film.
On se fait un film aujourd'hui, tout à fait. Unique film, ouais. un film batave, qui parle de la Batavia.
Tout à fait.
Et non pas de la salade, qui parle d'Amsterdam.
Ouais.
Voilà. Je pense que c'est le lancement le plus pourri qu'on puisse faire sur ce film-là.
Clairement. Non, mais on va essayer de parler d'autres
choses
après.
Merci. Alors,
Non, c'est effectivement le seul film frais, neuf, qu'on va pouvoir évoquer, puisqu'on l'a vu hier et il sortait effectivement un 1er novembre. C'est assez rare pour le saluer. Enfin, c'est le fait que, comme c'était un jour férié, du coup, et que ça ne sortait pas le mercredi traditionnellement, ils ont sorti quelques films hier.
Ah ouais, c'est à l'ancienne, quoi.
Ah ouais, pour profiter un petit peu aussi du fait que c'était un jour repos. Donc, ils se disent, on va faire une journée de plus pour l'exploiter le film. Voilà. Il y avait du monde hier en salle. Fallait avouer qu'on y est allé hier soir, 19h, et en fait, on a vu du mouvement en centre-ville à Orléans. Il y avait quand même beaucoup de monde en ville. Et apparemment, j'ai cru entendre que là, il y avait un petit retour quand même en salle depuis une quinzaine de jours. Mm-hmm. Bon, avec les vacances aidant, il y a du monde qui revient un peu vers les salles, ce qui n'est pas une mauvaise chose.
Et puis des films qui commencent à être un peu plus grand public, un peu plus accessibles, qui ont envie de drainer des gens, quoi.
En fait, là, ce que j'ai vu, c'est un peu aussi pour ça que nous, on n'a pas vu grand-chose, paradoxalement, c'est qu'il y a surtout beaucoup de sorties de comédies françaises qui ne donnent pas des masses en vie. Mais par contre, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont sorties en l'espace de 3 semaines, 1 mois. Et c'est peut-être aussi ça qui fait rentrer les gens en salle, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on n'a pas fait le parti pris des comédies musicales françaises. On a été voir le grand film américain avec un gros casting, donc signé David O. Russell. Cinéaste qu'on apprécie plutôt ici, en fait.
On n'entend pas. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ton micro est rouge, mais je ne t'entends pas parce que je suis trop nul.
Parce
que je suis dyslexique des couleurs et je ne suis pas daltonien, juste dyslexique des couleurs. J'ai confondu le rouge et le jaune alors que pourtant je vois bien les deux couleurs différemment. Incroyable.
Et voilà, pour finir en fait sur présenter le réalisateur, s'est fait connaître surtout grâce au Roi du désert, qui est un film qui commence à dater maintenant. Hein.
Avec George Clooney, ouais. Saïd Tagmaoui.
C'est ça, tout à fait. Qui se passait en Irak pendant la guerre
d'Irak. Et dans ce fameux film où on apprend qu'aujourd'hui les armes ne sont pas faites pour tuer mais pour blesser et faire un maximum de dégâts, puisque un soldat blessé, c'est 5 hommes mobilisés autour de lui alors qu'un soldat tué, c'en est à la limite un autre qui le traîne, c'est et puis c'est tout.
La philosophie du film, effectivement. Et puis après, il a
enchaîné. Après, George Clooney, il aura fait le pacificateur, je crois.
Ouais, tout à fait. C'est la même année, je pense, ou 2 ans après, quelque chose comme ça. Donc après, David O. Russell, moi j'aime beaucoup surtout 3 films de lui qui sont des réussites vraiment presque sans faute, c'est-à-dire Happiness Therapy, que moi j'ai beaucoup aimé.
Avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Qui est assez drôle, on va dire.
Ouais, il y a des bonnes séquences drôles, et puis le sujet, l'entrée en matière était intéressante. Il y avait aussi un Robert De Niro qui était hilarant aussi dedans.
Quel joli rôle. Il joue le rôle du père de Jennifer Lawrence, c'est ça.
Qui est un fan de foot américain ou de baseball, c'est l'un des deux.
Ouais.
Et il est du Boston Red Sox, un truc comme ça. Il saoule tout le monde avec le sport national numéro 1 aux États-Unis.
J'ai trouvé que c'était un peu une ressucée de Mon beau-père et moi, ce personnage de Robert De Niro dans Happiness Therapy.
Oui, en fait, je réalise justement que, parce que moi, j'ai pas vu Happiness Therapy, donc dans un autre film qui a suivi, De Niro était encore le père de Jennifer Lawrence.
Effectivement, il a redonné...
Aussi David O. Russell. En fait, vous l'aurez compris, ce soir, nous faisons une spéciale filmographie David O. Russell.
Exactement. On pourrait presque faire ça au moins pour une première partie de l'émission, c'est sûr, parce que c'est en l'honneur de son nouveau film, on va dire. Mais revenir sur un peu sa bonne filmo, et pas forcément intégrale, mais enfin, en tout cas, c'est quelques bons films, ça peut le faire. Mais donc, pour parler de la nouveauté, on va quand même, sans faire attendre les auditeurs, on va parler de Amsterdam, effectivement, c'est le titre de ce nouveau film de 2h14.
C'est long.
Grand format, tout à fait, avec un casting ébouriffant. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite donné envie de voir le film.
Et pourtant, tu n'en as plus beaucoup.
C'est assez vrai. C'est ta remarque parfaitement judicieuse. Et puis les années aidant, et puis bientôt c'est notre anniversaire. Et puis voilà.
Hein. Moi, je peux me permettre de dire que tu n'en as plus beaucoup, puisque je n'en ai pas un seul.
Exactement. Je ne le prends pas trop mal de ta part. Et du coup, gros casting, c'est ce que je disais avec Arnaud quand on avait vu l'affiche en annonce.
Alors, il y a qui ?
Voilà, il y a du monde.
Je vais chercher ça pendant que tu.
D'abord, il y a à commencer par les anciens de chez lui, c'est-à-dire Christian Bale, qui jouait dans Fighter, autre très bon film de David O. Russell.
Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Christian Bale à l'écran quand même. C'était en Batman, non ?
Alors non, il a fait d'autres trucs depuis.
Bah oui, il y avait Et voilà, c'est la panne.
Alors, t'affiches ?
Non, c'est celui où il joue le rôle d'un homme politique américain, qui est grimé,
on
comme
le reconnaît
c'est
pas
permis.
C'était, mais tout à fait.
Un film assez cynique, enfin, sur un personnage très cynique plutôt, on va dire. Voilà, bon, je vais pas retrouver mes billes à ce sujet-là.
En tout cas, voilà, on a Christian Bale en rôle principal de ce film. On a Robert De Niro, donc, qui re-signe avec Russell. Après, dans le côté vraiment champagne du casting, on trouve quand même Taylor Swift, qu'on ne voit pas souvent au cinéma, la chanteuse américaine, qui vend parmi les plus grands nombres d'albums, enfin, qui est vraiment la tête en ce moment de toutes les majors musicales, en tout cas. Et là, qui est une actrice qui joue un personnage qui introduit un petit peu, qui est tout au début du film. On a aussi Margot Robbie. Alors, c'est pareil, ça, c'est aussi l'actrice la plus
Bankable,
j'aime pas le terme, enfin vraiment l'actrice du moment qui joue dans beaucoup de films, qu'on a vu bien sûr dans les adaptations de DC, dans le personnage de Harley Quinn, etc. On va avoir qui aussi voilà, il y a vraiment un gros
Rami Malek,
Mr. Robot, qui est aussi là. J'essaie de regarder quand même ma fiche parce que.
Queen aussi, hein. Rami Malek. Hein.
Oui, bah oui.
Queen aussi, voilà,
effectivement,
non,
c'est Freddie Mercury quand même, je pense que c'est jusqu'ici son plus grand rôle.
Ouais. Bah, il est pas mal dans ce
C'était le film qui n'était pas si grand que ça.
Oui, mais lui, dedans, Freddie Mercury, tout à fait.
Je regarde un petit peu juste pour.
Je suis bien d'accord avec toi.
Histoire de voir un peu le casting, quand même, parce que la distrie, elle est quand même assez impressionnante sur Amsterdam. Et c'est probablement le seul truc positif du film, en fait, c'est le fait qu'il y a un grand casting. Donc, Anya Taylor-Joy, qui est là aussi une actrice qui jouait dans le jeu de dames, enfin, vous savez, sur Netflix. Et puis aussi dans The Witch.
The Witch, oui.
Voilà. Donc, c'est aussi une actrice qui est. Bon, après, on va retrouver John David Washington, très à la mode aussi en ce moment. On a Mike Myers, qui. Franchement, on pensait qu'il ne ferait plus de films, Mike Myers.
Mike Myers, quoi.
Ouais.
C'est une blague. Il y a eu sa série sur Netflix qui est sortie cette année, Mike Myers.
Bon, Chris Rock, on a quand même l'habitude de le voir un peu plus. Quand même.
Ouais, c'est pas souvent,
ça faisait un moment.
En rôle de cinéma, pas tant que ça. Hein. Zoé Saldana, là aussi, quand même. Michael Shannon. Donc, c'est quand même, voilà, je regarde juste rapidement comme ça.
J'étais hyper mauvaise langue avec la filmographie de Christian Bale, quand même.
Ouais.
Ouais.
Quand même.
Mathias Schoenaert, Andrea Riseborough, c'est quand même, voilà. Tout ça pour
parce
vous dire
que même quand il était Batman, il avait quand même plein d'autres films en même temps.
Oui.
Je suis désolé, Christian. je toutes mes excuses.
Donc,
tu vas le fâcher tout rouge.
Le point fort principal de Amsterdam, c'est son casting. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Surtout que le casting se marre bien à certains moments. Il y a des séquences qui sont caviar, vraiment faites pour eux. Ça se voit, c'est clair. Et ça, David Russell se fait vraiment plaisir. Il s'est fait plaisir aussi sur le point de vue formel, je pense, parce que c'est un film d'époque.
Oui, la reconstitution historique, oui, sans doute. Ouais.
Qui n'est pas si mal, puisque ça démarre, en fait, il y a des flashbacks, mais enfin, on démarre, on va dire, en 1918 en France, à la fin de la campagne d'Argonne, pratiquement à la fin de la Première Guerre mondiale. Et après, on se reprojette en 1933, 1934, c'est-à-dire au moment de la crise, la grande crise américaine, et la grande récession, et la montée des fascismes, puisque c'est un peu le thème finalement de ce film Amsterdam. Donc entre ces deux périodes, bah, c'est les années folles, c'est les années d'insouciance, et puis une guerre annonce une autre, alors que c'est censé être la dernière des dernières. Bon, on s'apercevra que, ouais, effectivement, moins de 30 ans plus tard, on va remettre le couvert avec encore plus de morts. Et c'est un peu le parti pris d'Amsterdam, c'est-à-dire un film. Et c'est là que ça coince un peu, je pense. C'est ce qui nous a un petit peu, nous, un petit peu déçus. C'est que c'est un film militant, c'est un film engagé, c'est un film un peu de l'intelligentsia des cinéastes américains sont certainement anti-Trump. Et c'est un peu ça, je pense, le tremplin pour faire le film, à mon avis. Hein.
Je dirais pas que c'est pas.
En gros,
c'est pas spécialement.
Non, je pense pas.
Au sujet de Trump, je pense qu'effectivement, ils sentent les uns comme les autres, enfin, tout le monde.
Les résurgences des
fascismes. Les montées
fascisme.
des fascismes, des extrêmes droites un peu partout dans le monde, quand même. Donc, le film reprend effectivement historiquement comment ces mouvements ont émergé, percé dans leur point le plus culminant pendant le XXe siècle. Donc je pense qu'il se donne pour mission d'alerter sur le retour de tout ça. Le truc, c'est que on peut pas lui reprocher effectivement de pointer du doigt et de montrer ça. Le problème, c'est qu'il le fait d'une façon un peu maladroite. Il y a une espèce de Je dirais pas que c'est caricatural, mais enfin un peu quand même. C'est, ça manque de finesse, tout simplement. Ça manque de finesse.
Autant qu'un Cluedo, quoi.
Ça, c'est, ouais.
Hein?
Autant qu'un Cluedo.
Bah, et c'est justement un peu le scénar, juste.
Bah, oui, oui, ça a l'air. C'est clairement un Woodunit, quoi.
Ouais.
Au début, et, ça rentre comme ça, ouais.
Et puis même quand on voit l'affiche, on est clairement sur on se place chez Agatha Christie,
oui, tout
un peu mode Cluedo, qui a fait le crime, enfin voilà.
Ouais,
et,
oui.
et ça manque de finesse comme Cluedo, quoi. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine, et puis c'est terminé, quoi.
Voilà. En gros, c'est ça, voilà. C'est surtout ça sur la deuxième partie du film, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est quand même plutôt réussie et très agréable.
Ouais.
Où là, c'est surtout là d'ailleurs qu'on sent le plus les acteurs
s'éclater,
ouais. S'amuser. Il y a de quoi. Enfin, bon, je sais pas comment par où commencer, bah, le truc.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien fait de le voir en VOST. Et d'ailleurs, on va le conseiller en anglais parce qu'il y a toute une séquence hilarante
de la Baltique.
Oui, tout à fait.
C'est lui. Qui se passe en fait.
En plus, l'émission d'avant, c'est Roll Mops.
Ah bah tiens, parfait. Ah. Bah, et du coup.
T'as de la suite dans les voilà. idées.
Il y a une séquence qui se passe dans un hôpital militaire, en fait, et où il y a Margot Robbie, juste une infirmière, en fait, qui parle français, mais alors pas super bien français, parce qu'elle a un accent à couper au couteau, mais c'est savoureux. Et en fait, tout le casting à ce moment-là se met à parler en français.
C'est aussi intéressant que dans Kill Bill, quand en fait il y a des scènes en français au Japon,
c'est ça.
Ou dans Inglourious Basterds, toute une scène qui est filmée en français avec. Enfin voilà, c'est là où l'intérêt de la VO prend tout son charme, c'est que. Oui.
Et c'était vraiment plaisant ce moment-là. On voit bien que les acteurs, ils ont les yeux qui frétillent. Ils sont beaucoup régalés à jouer en français. Et ça, bon, c'est toujours agréable de voir ça. C'est une séquence qui est très très drôle, mais. Passer ça, c'est vrai que la deuxième partie du film va nous amener sur la partie comme ça la moins maîtrisée, où c'est pas vraiment une histoire en fait. Il y a plus le scénario, quoi. C'est uniquement une rhétorique ou une succession un petit peu de poncifs, ou en tout cas voilà, c'est la partie qui est la moins réussie.
Il y a une histoire de complot qu'il faut déjouer, etc. Mais bon, les personnages effectivement enquêtent. Mais en même temps, les trucs, ils leur tombent un peu
tout cuit.
Enfin, voilà. C'est là où il y a quand même pas mal de maladresse et où le film a du mal, je trouve, à être intéressant sur ce qu'il veut dénoncer, parce que nos héros ne résolvent pas grand chose, ou du moins c'est un peu par accident. C'est des coups de bol, c'est un peu du Deus Ex Machina, pardon. Et du coup, la démonstration qui aurait pu être intéressante, un peu à la manière d'un Costa Gavras, on en parlait en sortant de salle par rapport au film engagé. Là, on a du mal à quitter le côté limite comédie de la première partie. Ouais. Pour vraiment rentrer dans le sérieux. Et bon, je sais pas, il y a un mélange qui se fait pas très bien, malgré tout.
Mais au final, c'est ça qui est, si on veut un peu continuer sur la filmo de Russell pour finir sur le film et puis évoquer un peu ses autres films, ce qui est un peu dommage, c'est que ce dernier film, il est moins personnel probablement que ses autres. Il a un côté un peu plus. On en a vu d'autres, des films comme ça, qui sont plutôt stylés. Là, la photographie, c'est pas la photographie habituelle, par exemple, de David Russell. C'est une photo presque chromo à l'américaine des années 30. Il y a un noir, enfin, il y a pas du noir et blanc, mais c'est de la couleur. Mais il y a des séquences qui sont un peu. Avec des tons chauds, etc. Enfin, la lumière est soignée, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas le style habituel de David Russell. Après, il a parfois un peu changé son style sur sa carrière, mais là, ça en fait un film qu'on a déjà vu chez d'autres signatures. On dit un peu que tous les cinéastes américains, à un moment, il faut qu'ils fassent un peu ce genre de film où ils mettent un peu le casting de rêve. C'est vraiment le super regroupement de bons acteurs du moment pour sortir des bons mots, des bonnes phrases. On sent qu'il y a une complicité, mais pour une cause noble, hein, c'est pas le problème. Mais c'est toujours un film qui est pas parfait, fatalement. C'est un peu un film factice, pas factice, mais qui manque un peu de punch, quoi, en réalité. Et il est capable de faire du punch, justement. Je pense à Fighter, justement, qui parlait d'improbabilité de ce binôme de boxeurs venu d'un milieu très très pauvre américain, etc. Et c'était un film qui était cogneur, qui rentrait vraiment dans l'art, quoi. On s'en prenait plein la poire. Et alors que là, non, c'est un film très consensuel finalement, qui enfonce des portes ouvertes, ça c'est sûr. qui est long. Malheureusement, il est long. Il a un peu ce problème aussi de parfois traîner en longueur pour avoir des résolutions qu'on sait venir facilement. Et c'est en fait le côté un peu décevant. Mais par contre, c'est toujours plaisant de voir les acteurs se faire plaisir. Ça, c'est sûr.
Voilà. Ok.
Voilà. Donc ça, c'est Amsterdam. Et du coup, pourquoi Amsterdam ? Bah, en fait, c'est nos personnages.
C'est le nom de New York ?
Non, c'est la ville, en fait, vraiment. C'est-à-dire que nos trois... c'est un peu un petit côté... Jules et Jim, voilà. Ça rappelle aussi l'univers de Pierre Lemaitre, hein, Au revoir là-haut. À un moment, on se dit, ça démarre comme Au revoir là-haut. T'as l'impression que c'est la même intrigue. Il y a le milieu de l'art qui se mélange avec l'après-guerre. Comment faire...
Les années folles, quoi.
Ouais, quasiment. Alors ça, ils ont... Soit Russell a vu le film Au revoir là-haut de Dupontel. Il y a eu quelque chose où il a lu le bouquin. Enfin, en tout cas, il y a des traces qui sont des trucs très semblables. Et tout ça, je voulais en venir, mais enfin... Que
Amsterdam en fait après leur passage les tranchées en France nos trois amis vont à Amsterdam, mais par contre c'était pas franchement expliqué, enfin oui si c'est expliqué pourquoi, c'est-à-dire que il y a là-bas quelqu'un qui enfin deux personnes qui doivent un service à la dame et le service en question consiste en des prothèses œil de verre et autres trucs du style.
Ouais.
Et bon, ceci dit, voilà, ils atterrissent à Amsterdam et Amsterdam c'est
un vent de liberté en fait, voilà. C'est décrit comme ça, c'est-à-dire une ville où tout est possible, où tous les mouvements culturels émergent, on n'est pas enfin voilà, il y a tout ce côté revigorant d'après-guerre et c'est le début effectivement des années folles. Bon, c'est ça uniquement. Et ils se sont tous rencontrés, ils se sont beaucoup appréciés en fait à vivre ensemble durant peut-être une année, je sais pas, un peu moins peut-être. Enfin, à Amsterdam, et c'est ce qui lie les copains, les trois amis en fait. Voilà, c'était simplement pour ça, le titre du film.
Ok.
Voilà, c'est fini.
On va faire une pause musicale et puis on va revenir parler d'autres choses.
Ouais.
On va écouter Georges Demure avec le titre Cut the Rug, Johnny Rock Remix sur Radio Campus 88.3 FM.
Come down here and cut the rug with me, you and I. Come down here and cut the rug with me. You and I.
Cut the Rug de Georges Demure sur Radio Campus à l'instant. Et toujours, on se fait un film, il est 19h27 et il va falloir qu'on brode pendant 30 minutes. Je ne sais pas trop, on parlait hors antenne, moi on m'a conseillé alors, de regarder Years on Years, une série plutôt anticipatrice, post-apocalyptiste, mais post-effondrement ou effondrement en cours, qui pose des questions de transhumanisme, de survie dans un monde post-capitaliste. Chaque épisode est séparé d'une 10 ou 15aine d'années. Donc voilà, c'est une trame temporaire un peu chelou. Mais voilà.
En fait, tu as continué un petit peu en parlant d'années qui se séparent. Enfin,
non, je suis toujours. Il y a 15 jours, je m'étais arrêté à l'épisode 4 de la saison première de La Maison des Dragons. Voilà, c'est pour ça. Puisque je dis le titre un québécois.
J'ai tout fini, moi, ça y est.
Il paraît qu'il y a même un épisode qui a fouité.
Ouais, je sais pas, enfin j'ai vu les 10, on va dire.
Voilà, et a priori, quand le 9 est sorti, le 10 est sorti dès le lendemain, il avait fouité. Et du coup, j'ai pas allumé une seule fois. En même temps, vous m'avez entendu, chers auditeurs et auditrices, sur les ondes de Radio Campus pendant 3 jours, puisqu'il y avait le festival des Rocomotives, donc c'était un peu intense, quoi.
Je vais pas en dire grand chose sur le bilan de cette première saison, mais en tout cas, bien évidemment, ça a annoncé une suite, c'est normal.
Il y a déjà 5 saisons de prévues, quelque chose comme
ça. Au moins 3, je crois, sur 3 voire 4 pour raccrocher les wagons avec la première série historique.
On est d'accord que ça s'arrête au moment où Game of Thrones va
normalement
commencer.
Ça raccroche, tout à fait. Voilà. Ça doit raccrocher les wagons sur la dynastie des Targaryens pour arriver
à la dynastie des Baratheons.
Oui, exactement. Et à ce qu'on connaît dans la saison 1 de Game of Thrones. Donc il y a
du
chemin.
Du coup, on devrait voir
la naissance des petits.
Oui, et puis surtout la fuite des Targaryens en Valyria.
Tout à fait. Donc tout ça, c'est
pas Valyria, je ne sais plus où ils ont refui. Enfin.
Mais en tout cas, voilà, l'épisode 10, l'épisode 9 et l'épisode 10 amènent vraiment sur une suite à venir. Enfin, on sent la guerre venir. En gros, c'est ça. C'est une guerre fratricide et interne entre les Targaryens et les clans un peu annexes. En fait, c'est ce qui va se passer. Ils vont s'autodétruire. Enfin, sans spoiler trop, il va y avoir du dragon de partout. Voilà, c'est un peu ça le concept qui est avancé sur cette saison 1 et puis qui va certainement être amplifié sur la saison 2, voire la saison 3. Là aussi, il faut broder sur un épisode, un événement.
On va avoir du CGI à gogo.
Je pense, oui, tout à fait. Alors, en série, sinon, sur tes conseils, Arnaud.
Oui.
Moi, je viens de découvrir, alors j'ai vu que 2 épisodes, le pilote et l'épisode 2 d'une série de Mike Flanagan qui s'appelle Midnight Mass, qu'on peut traduire par les sermons de minuit. Ça fait rien à voir avec la chanson d'Emile et Image, Désolé, les amis.
Franchement, tu veux que je te dise, j'ai posé la question de savoir si on devait twitcher notre émission. Parce qu'en fait, ça pourrait être sympa,
drôle.
Twitch, du coup, mais là, je viens de prendre. Je me dis non, en fait, on va encore attendre un an.
Un petit peu. On va laisser.
On va laisser Vincent refaire ça.
Sa connaissance, sa culture de tute. En tout cas, les sermons de minuit, Midnight Mass. Je préfère le dire en anglais. Mm-hmm. C'est une série donc en 7 épisodes, je crois.
Oui.
Mike Flanagan, auteur de The Haunting of Hill House et aussi de Doctor Sleep, qui était la suite
de Shining
d'après le roman de King. Spécialiste donc des histoires lugubres, vraiment au passif lourd, enfin avec des personnages vraiment vraiment bien dessinés, mais souvent très très glauques. On ne déroge pas à ses habitudes sur Midnight Mass, qui a une magnifique entrée en matière. Je crois que c'est encore une fois un pilote joue beaucoup pour une série. Et la première séquence, les 2 premières minutes, elles sont d'une beauté visuelle assez époustouflante, avec une scène très simple. C'est un accident de voiture, en fait, avec notre héros qui est coupable, en fait, d'un accident. Il a tué quelqu'un en voiture. Et donc, tous les plans sont ultra, ultra chiadés. Ça se passe de nuit. Il y a la brillance, en fait, des gyrophares de la police, rouge et bleu, qui clignotent un peu partout sur la brillance de l'eau, du sol, enfin, sur la carrosserie de la voiture. Et rien que ça, déjà, c'est une superbe séquence d'ouverture. L'histoire, pour faire simple, c'est donc ce type qui a provoqué un accident et qui va payer pour ça. C'est un
C'est-à-dire qu'il était en état d'ivresse.
Il était en état d'ivresse, donc il a tout contre lui, fatalement. Il est coupable, il le sait. Et ça prend un reflet particulier parce que c'est un religieux, c'est un catholique. Il est prêtre ? Non, il n'est pas vraiment...
En tout cas, sa famille est vraiment très croyante, pratiquante, etc. Ouais. Un peu comme tout le milieu d'où il vient, qui est une petite île.
Ah oui, ça c'est super intéressant aussi. Ouais.
De quelle région, ça je ne saurais le dire.
En tout cas, c'est un caillou hein, avec 127 âmes.
Oui, quand on dit île, c'est pas...
C'est vraiment dépouillé.
C'est pas très grand. Hein. C'est effectivement, comme tu disais, c'est un caillou.
Et effectivement, lui, l'histoire arrive par lui qui revient voir la famille une fois libéré des 3 années de prison qu'il a fait pour réfléchir à son acte. Et il y a évidemment toute une notion de culpabilité, de pardon et de remords, en fait. C'est un personnage qui est donc hanté par ça. Et combien ? Parce que grâce à Mike Flanagan, on peut s'assurer qu'il y a des visions ultra flippantes quand il repense à son crime. Et ça, il sait le faire. Et donc, il arrive dans cette petite île, fatalement super bigote, très isolée, essentiellement de pêche, hein, qui vit de la pêche. Alors là, c'est super bien reconstitué aussi. Enfin, il y a vraiment une vraie ambiance très forte que King pourrait écrire, ça c'est sûr. On pense beaucoup à King, on pense beaucoup à cet univers-là. Et on va découvrir donc sa mère, on va découvrir ses frères et sœurs, je sais plus, enfin, il y a une petite famille, et aussi tous les autres résidents. Parce que tout le monde se connaît, hein, avec 127 personnes à bord, c'est vraiment un tout petit trou et une petite bourgade, et tout le monde se connaît ou se serre les coudes, on va dire, autour de la foi. Et moi, j'ai vu que 2 épisodes, donc tout ça est hanté. Il y a des événements paranormaux qui surgissent, dont on ne sait pas vraiment quelle est la finalité. Je savoure d'avance les prochains épisodes. Toi, Arnaud, tu as de l'avance, tu l'as bouclé, tu l'as finalisé, mais voilà, en tout cas. Merci de me l'avoir conseillé. Que peux-tu en dire de plus, pour le coup, sans trop spoiler ?
Je ne vais pas trop spoiler. Enfin, j'en avais un peu parlé brièvement à une fin d'émission où on n'avait pas beaucoup de temps. Mais bon, en gros, tu as pas mal résumé le truc. Je trouve que la force, en dehors du visuel qui, effectivement, est très maîtrisé et vraiment costaud, la force de la série, c'est aussi dans ses dialogues et dans les concepts qu'il explore. Évidemment, il y a une remise en question de la croyance. Est-ce que si moi je crois en Dieu, est-ce que lui il croit en moi, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Et puis sur la vie, la mort, bien sûr, qui sont pas seulement effleuré, quoi, c'est pas juste survolé.
C'est creusé.
C'est creusé, ce qui parfois peut mettre peut-être un peu à l'écart, ça dépend de la façon dont on prend la chose. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pour un truc un peu... c'est un peu fantastique,
c'est du fantastique
à la base,
aussi, hein, ouais, bien sûr.
Je me suis dit, ouais, quand même, ça, c'est pas juste le jumpscare, on va te foutre la trouille, etc. Donc ça, j'ai énormément apprécié. Ce que je reprocherais un peu à la série, dans son déroulement, dans son développement, c'est que dans les premiers épisodes, il y a quelques pistes qui sont développées et qui après sont un peu mises de côté. Et j'avoue que sur ces trucs-là, je suis resté un peu sur ma faim, sachant que vers la fin de cet épisode... On en reprend un coup et franchement, j'avais été assez bluffé par le truc.
Est-ce que c'est une série en un seul coup ou est-ce que tu penses qu'il y a une suite à venir?
Non, il n'y a pas de suite.
C'est bouclé les portes.
S'ils en font une, c'est parce que ça a bien marché, donc on va se tenter. Mais c'est pas prévu. Suite. Mais la façon dont c'est écrit, dont ça se termine, dont c'est conclu, pour moi, non, il n'y a pas franchement, ça peut très bien s'arrêter là sans que... ça appelle pas... Ça peut... Je crois qu'une porte a été laissée ouverte à la fin du dernier épisode. Mais vraiment, ça, c'est un peu le truc qui était là, juste la petite pirouette. Mais dans son ensemble, c'est conclu. Enfin, pour moi, c'est conclu.
D'accord. OK. Bon, en tout cas, non, c'est vraiment à conseiller. Alors, c'est sur Netflix, je crois, en tout cas.
Oui, je ne pense pas qu'ils l'ont dégagée. C'est vrai qu'elle n'est pas toute récente comme série, mais franchement, ouais, ça... Ça valait quand même le coup d'œil.
Okay. Midnight Mass, du coup. Moi, j'ai vu qu'ils sortaient, c'est tout récent, j'ai pas encore vu le pilote, mais ça donne pas super envie, c'est sur Canal. C'est des productions maison. C'est un Marie-Antoinette. Ça n'a pas l'air gégène.
Pas l'air gégène.
Ouais, génial. Les jeunes années de Marie-Antoinette à la cour. Alors, déjà, ils sont forts d'avoir fait Versailles, je crois, à Canal. Ils avaient fait déjà plusieurs saisons d'une série qui a bien fonctionné, qui reconstituait la vie de Versailles sous Louis XV ou Louis XIV, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le microcosme de cour et tout ça était plutôt pas mal fait. Moi, je n'ai jamais regardé un seul épisode de ces plusieurs saisons. Et là, peut-être fort de ça, il rapproche dans le temps, à l'époque de Louis XVI, et donc de la jeunesse de Marie-Antoinette. Alors, il y a déjà eu un film, hein, je ne vous le cache pas, qui est signé Sofia Coppola il y a quelques années, qui faisait déjà le tour de la question, tourné dans le château. Ça avait fait suffisamment de vacarme ou de bruit à l'époque.
Comment il s'appelle d'ailleurs ce film ?
Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, tout court.
Tout simplement.
Ah oui. Que j'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'il est sur le...
Avec
Kirsten Dunst, tout à fait. Dunst. Ça commence à dater, hein. Ça fait déjà presque 20 ans.
Hein.
Ouais. Et donc, bah voilà, pour moi, j'avais un peu encore cette référence qui était déjà à l'époque un film un peu subversif par les années...
Il ne lui avait pas collé des converses et des trucs comme ça.
Il y avait
ça,
un plan, il y avait des anachronismes. Ouais. D'abord, il y avait une BO qui avait fait la grande époque, en fait, en mettant plein de morceaux que Sofia Coppola adorait. Donc,
il y avait il y avait des choses comme
tout
ça.
Tout à fait.
2006,
oui, du coup. Ouais. et il y avait effectivement le plan converse, et puis il y avait le fait d'avoir tourné à grands frais dans Versailles.
Mais une affiche aussi un peu glitchée, avec écrit Marie-Antoinette en rose fluo, avec une typo très moderne et construite, quoi.
Tout ça est présent, j'ai l'impression, dans cette nouvelle adaptation là, qui est juste en ligne depuis, c'est tout récent, ils ont fait un peu la pub, on peut voir les affiches en ville. Par contre, la bande-annonce qui résume un peu la tonalité de ça, c'est la jeune Marie-Antoinette rebelle qui fait un doigt tendu à un moment. Alors ça doit être ça, l'anachronisme équivalent des converses dans la version de Sofia Coppola d'il y a presque 20 ans. Mais là, rien que ça, déjà, je me dis, d'accord. Parce qu'au moins, fallait, pour avoir revu Marie-Antoinette de Coppola il n'y a pas si longtemps, certes, il y a le côté un peu musical, décalé, et certains petits placements d'objets qui ne pouvaient évidemment pas être à l'époque de la cour. Par contre, il y avait tout le poids
des protocoles,
l'étiquette. Et aussi, moi, je me souviens de ce qui m'avait beaucoup marqué sur l'ouverture du film, mais même après, c'est les serviteurs qui passent leur temps pratiquement à faire des révérences ou saluer ou se pencher devant le passage de chaque tête royale. Voilà. Et ça, c'était super bien observé. Je pense que ça, c'était très documenté dans le film de Coppola. Là, je ne sais pas où on va et j'ai peur que ça soit un peu comme ce qu'ils ont fait sur TF1, entre guillemets, là, pour l'affaire du bazar de la charité, c'est-à-dire des adaptations historiques mais en parlant comme aujourd'hui, ça ne se supporte pas, ça m'hérisse le poil dès que je vois ça, dès que je vois 30 secondes d'une série où ça ne parle pas comme entre guillemets à l'époque, et on le sent tout de suite. Là, ça me fout tout de suite en dehors, et en général, la sanction est immédiate, je dégage tout de suite la série, et j'ai peur que là, cette adaptation un peu rock'n'roll, de nouveau, d'une Marie-Antoinette qui ne se laisse pas compter, rebelle, qui va aller contre les conventions et vouloir... ça ne se prend pas ce qu'elle voulait faire. Bref, je ne suis pas sûr que ce soit jamais. J'essaierai quand même de voir le pilote pour vous en reparler dans une quinzaine de jours, parce que là, je parle uniquement sur le fait d'avoir vu la bande-annonce, et c'est tout, quoi. En tout cas, c'est dispo sur Canal+, depuis lundi, enfin, cette semaine. Voilà. Mais on a encore 20 minutes à broder, les amis.
Ouais, ça va être long, je peux remettre une pause musicale.
Ouais,
on va mettre un peu plus de musique chez nous.
On va réfléchir à ce qu'on va parler après, pour le coup.
Et on va écouter un Stand High Patrol avec le titre Our Own Way sur Radio Campus 88.3 FM. Attention, c'est une sorte de reggae. Hein. Ah, ça a raté. Et ben on va écouter Grand Sorcier avec Ali. on se fait un film, on a beaucoup débriefé hors antenne, chers auditeurs, et on en est arrivé à la conclusion que bah, on allait peut-être devoir rendre l'antenne plus tôt. Oui, donc on va vous laisser en musique, on va pas vous faire souffrir avec nos hésitations. Voilà, c'est
on s'excuse.
C'est 15 jours pauvres. C'est pas.
Bah, ouais, voilà, c'est vache maigre. Après, on peut dire ça. Hein.
C'est vache maigre. Voilà. On avait d'autres choses à faire dans la vie. C'était compliqué. Voilà. On a regardé un peu la filmographie de Sofia Coppola hors antenne. On était tous un peu passés à côté de son film qui s'appelle On the Rocks, mais c'est normal, il est sorti en 2020 sur une plateforme qu'aucun de nous n'a. Voilà. Ouais. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est la multiplication des supports et le besoin, en fait, finalement, de payer toujours un peu plus pour avoir accès à toute la production et l'énorme production. Bah tiens, sinon on pourrait partir sur 15 minutes de débat sur l'hyperproduction de la production cinématographique, l'obésité quelque part peut-être de cette production cinématographique, mais on va s'arrêter ici, je pense, et on va se quitter en musique, et puis je vais vous laisser avec les trois prochains morceaux. Voilà, je vais vous annoncer ça. On va faire un petit peu du commentaire. Donc il y aura Xordox avec le titre Croydon, puis Pleasure avec Brain Waste, et enfin Madalisto Band avec Moussa Kayike sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour French Kiss le mardi 8 novembre, ça et puis marche. Nous on se retrouve tous ensemble le mardi, le mercredi
en 15
9-16 novembre.
Ça marche, mais merci en tout cas à toi, puis avec plein de films ce coup-ci.
On va essayer. Ciao.
Salut, ciao.
Croydon de Xordox.